Parler de course automobile, aujourd'hui, c'est la saison de F1 qui débute au Bahreïn en fin de semaine. On en parle avec l'éditeur du magazine Pole Position, Philippe Brassard. Salut Philippe.
Oui, salut Danny.
Philippe, pour les gens qui écoutent le vidéo, il est envoyé également dans des groupes de F1 en Europe, très populaires. Et donc, j'aimerais ça que tu expliques en fait Pole Position, qui est un magazine québécois-canadien qui parle de course automobile.
Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que Pole Position, donc il y a le magazine papier, numérique, puis aussi le site web poleposition.ca. Donc, j'ai créé le magazine en 90, un petit
Ouais.
peu. Grand Prix de Trois-Rivières en 90, donc un petit peu moins de 32 ans. Et puis, donc, on se spécialise surtout au niveau sport automobile nord-américain, États-Unis, Canada, Québec, mais évidemment, quand on parle des grandes séries internationales comme la Formule 1, l'Endurance, puis d'autres, on en parle beaucoup aussi. Et donc, dans la nouvelle édition là, qui est en arrière de moi, c'est vrai qu'on a la présentation, le guide de la saison de Formule 1 en plus, parce qu'elle intéresse beaucoup, beaucoup de monde ici. Et ça, ce n'est pas juste l'effet Drive to Survive, là. Elle
Ouais.
intéresse beaucoup de passionnés au Québec, la Formule 1, depuis l'époque de Gilles Villeneuve, bien entendu. Donc, au niveau de Pole Position Magazine, on couvre beaucoup la Formule 1. On a aussi parmi nos chroniqueurs François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada. Là, ça, c'est une de nos exclusivités. Mais on couvre aussi beaucoup le NASCAR, l'endurance, le rallye.
OK, puis l'indicateur un peu aussi qui devient un peu plein d'indicateurs.
L'IndyCar, un petit peu, oui, je dirais qu'il y a un regain d'intérêt de
En
la part de nos
Amérique,
lecteurs pour
ouais.
l'IndyCar, ça c'est certain. Puis c'est vrai aussi qu'on couvre beaucoup toutes les séries quand même canadiennes. Ça va de la série NASCAR Pinty, le championnat NASCAR pour les Canadiens, au championnat canadien rallye. Aux différentes séries de circuits routiers aussi. Là, on a toujours beaucoup de pages, que ce soit Coupe Nissan Sentra, que ce soit les séries, comme je disais, de NASCAR ou de circuits routiers, bien entendu.
OK. À quoi s'attendre la saison 2022? Évidemment, on va regarder du côté de nos Canadiens, Lance Stroll. C'était une saison difficile l'an passé. J'ai entendu dire qu'Aston Martin, ça va être mieux, un peu mieux cette année. Est-ce que j'ai raison?
Ben, disons qu'il y a beaucoup. On part dans l'inconnu avec les Formule 1
Ouais.
2020. Il faut comprendre que c'est des toutes nouvelles voitures et même les équipes. Il y a beaucoup de phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas encore. On a vu le fameux phénomène de marsouinage. Marsouinage, c'est en fait en réalité parce que c'est des vibrations extrêmes causées par l'effet de sol, justement. Ce sont toutes des choses que, quand bien même la Formule 1, c'est des très, très gros budgets avec beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ne maîtrisent pas. Et Aston Martin, je dirais, c'est dans les écuries qui n'ont pas très impressionné dans les
Non,
essais
OK.
pré-saison. On peut s'attendre à la fois du très positif. C'est un petit peu comme Alpine ou Alfa Romeo. C'est des écuries qui tantôt étaient aux avant-postes et on l'a vu encore lors des premiers essais aujourd'hui à Bahreïn, où on a Lance Stroll qui est sixième de la première séance et puis il tombe 16e de la deuxième séance. Donc c'est
OK.
sûr que c'est une situation qui va être. Je pense qu'on ne peut être quasiment certain d'une chose, c'est qu'il y aura Red Bull et Ferrari aux avant-postes, mais pour le reste, ça va être une très grosse surprise et pas juste. Le premier Grand Prix, je pense que d'autres Grands Prix au fur et à mesure de la saison, ça va être aussi assez surprenant.
Mercedes, à quoi s'attendre? Lewis Hamilton, je pense que ça va être un peu difficile en début de saison, hein?
Ben, c'est-à-dire que Mercedes, traditionnellement, ils cachent toujours leur jeu lors des essais
OK.
précédents. Hein, parce que le nombre de fois où les passionnés de Formule 1 doivent s'en souvenir, le nombre de fois où on a entendu dire que Ferrari avait la meilleure voiture après les essais pré-saison, je pense que la liste, elle est super longue. Donc, c'est certain que Mercedes a toujours un peu tendance à cacher son jeu. Mais là, on s'aperçoit que cette année-ci, de par les données, les datas qu'on peut voir et les autres équipes, les comparatifs des autres équipes, lors des essais pré-saison, ils affichaient clairement des difficultés avec leur nouvelle voiture. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raté la voiture, mais c'est clair que la voiture n'est pas aussi abouti, devrait-on dire, que ce que ça l'a été avec l'ancienne réglementation. Et traditionnellement, une nouvelle réglementation, Ferrari a souvent tendance à être un petit peu plus compétitif parce que souvent, ils vont sacrifier les dernières années d'une ancienne réglementation pour préparer les nouvelles voitures.
C'est quoi qu'on a surveillé de près? Écoute, tu as dit c'est une nouvelle voiture. C'est quoi la différence avec celle de l'an dernier?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de différences.
Ouais.
C'est vraiment, on peut dire que ça, on est avec des voitures qui ne sont plus du tout pareilles. Elles sont un petit peu plus lentes, mais ça ne se verra pas nécessairement à l'œil nu. Je veux dire comme ça, pour les spectateurs, ça ne se verra pas. Ce qui va se voir, par contre, c'est le profil aérodynamique de la voiture. Elles sont, je dirais, plus fines. On a même vu la Mercedes qui avait quasiment pas de pontons latéraux. Parce que justement, on permet une chose qui n'était plus autorisée depuis les années 80, depuis le début des années 80, c'est l'effet de sol. Alors, l'effet de sol, c'est le contraire un peu d'un avion, pour simplifier le plus possible. Le principe, donc, on fabrique de l'aérodynamisme d'un avion pour qu'il puisse décoller, et là, on fait le contraire pour que la voiture colle au sol le plus possible. Donc, je dirais que ça, c'est une nouvelle donnée qui a été réintroduite en Formule 1. Autre aspect visuel que les gens vont sans doute se rendre compte aussi, c'est que les pneus sont passés de 13 pouces à 18 pouces, donc c'est des pneus plus gros. Et les pilotes se sont plaints, même Lance Stroll d'ailleurs s'est plaint du manque de visibilité dans certains virages en disant le point de corde, on le voit un petit peu plus difficilement. Et si on a un adversaire qui est vraiment à l'intérieur du virage, ça va être un peu plus d'adaptation, un petit peu plus difficile quand même.
OK. Donc, faut voir quasiment à quoi 3, 4 Grands Prix avant d'avoir une bonne, avec une nouvelle voiture de même, avoir une bonne indice à quoi s'attendre la prochaine saison. C'est
Absolument. Je pense
avant
que c'est.
l'Europe, ben ça a toujours été ça, avant l'Europe, on arrive en Europe, c'est probablement là que la vraie saison commence, hein.
Oui, la seule chose qu'il y a, c'est que là, il y aura eu pas beaucoup de courses en Europe, je veux dire, dans le sens où on a Bahreïn, on a l'Arabie Saoudite, on
Ouais.
a l'Australie. Il va aussi avoir, n'oublions pas, au début du mois de mai, un Grand Prix à Miami. Ça, c'est
Ouais.
la nouveauté du printemps. Donc, je dirais qu'il y a peut-être moins de courses en Europe pour vraiment tout de suite établir. Il va y avoir Imola et Barcelone. Donc, c'est certain que Barcelone est un circuit qui est quand même plus représentatif, je dirais, de la Formule 1. Imola est un peu plus sinueux, donc ça va être un peu plus. Ça devrait avantager justement des équipes comme Alpine, qui avaient une mauvaise vitesse de pointe lors des essais pré-saison, mais qui, on le voit, sont quand même capables de progresser assez rapidement. Donc, je dirais que c'est vraiment effectivement. Ça va prendre 5 à 6 Grands Prix, peut-être même, avant d'avoir un bon profil de la saison.
Si on parlait un peu aussi du côté donc de la voiture et ainsi de suite, du côté de Williams et de McLaren, est-ce que c'est deux équipes qui sont des équipes prestigieuses, c'est quand même des équipes, ils ont changé de main au cours des dernières années. Le fait que ça a changé de voiture, est-ce qu'ils pourraient être plus compétitifs cette année?
Alors, ce qu'on a vu effectivement, c'est que McLaren a très très bien débuté les essais pré-saison. La
Ouais.
voiture très très compétitive. Par contre, ici, il semble, depuis qu'ils sont à Bahreïn, ils ont plus de difficultés, semble-t-il. C'est vrai que McLaren était une des équipes où, bon, ils profitent quand même du moteur Mercedes, donc il faut s'attendre ça au niveau motorisation à ce que ça soit encore très très compétitif. Williams aussi a le moteur Mercedes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les Williams, c'était les deux derniers chronos à la deuxième séance d'essais libres. Par contre, ils avaient bien progressé et ils étaient dans le bon rythme lors de la première. Les essais libres, il faut toujours faire attention parce que ce n'est pas représentatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes qui roulent sur des vieux pneus, d'autres qui vont passer un train de pneus neufs, d'autres encore qui utilisent avec beaucoup de carburant pour simuler une course et d'autres qui, au contraire, utilisent très peu de carburant pour travailler la qualification.
Mais quand c'est des circuits comme Bahreïn, comme des circuits qu'on voit pas, que les écuries connaissent moins, est-ce que c'est comme à Montréal, le vendredi à Montréal, c'est pas comme en Europe, là. Tu sais, on utilise. Donc j'imagine que c'est la même chose pour Bahreïn, là.
Bahreïn, ils le connaissent très bien parce que c'est un
OK.
circuit permanent où ils y ont fait la semaine dernière les essais pré-saison.
OK.
Puis Bahreïn est beaucoup, beaucoup utilisé. Donc les équipes possèdent
OK.
énormément de données. Il faut comprendre aussi que même si on ne voit pas une voiture sur la piste, il y a énormément d'essais qui
Avec
sont
les
faits en
simulateurs.
simulation. Puisque ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que par exemple, même pendant les week-ends de Grand Prix, il y a des pilotes qui sont à l'usine de l'équipe pour faire je dirais, des tests de simulation de Grand Prix. Donc très souvent, par exemple, après le vendredi, dis-toi une chose, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, après les deux séances d'essais libres à Bahreïn, il y avait des pilotes qui étaient dans les simulateurs des écuries de course en Europe
OK.
en train de tout travailler, tous les réglages possibles selon les données qu'ils ont obtenues des voitures en piste. Donc, les équipes connaissent quand même très, très bien les circuits. Mais c'est
OK.
vrai que l'Australie, par exemple, ça va être le cas de Miami aussi et Montréal. Ça, c'est trois circuits au contenu qu'ils ne peuvent pas du tout pratiquer avant le premier Grand Prix, avant la fin de semaine de course. C'est toujours beaucoup plus complexe, évidemment, pour eux autres de
OK.
préparer les
Philippe,
étapes.
on a appris cette semaine que le Grand Prix du Canada, ça va très, très bien. Il va avoir lieu cette année enfin. On parlait que non seulement les billets sont vendus, mais comme on a même utilisé 20 000 spectateurs de plus. Donc, c'est vraiment de bon augure, là. Est-ce que la série Drive to Survive est tant que ça, elle a un impact direct sur ça?
Oui, tout à fait. Je dirais
Ouais.
qu'il y a deux clientèles, on va dire, aujourd'hui en course automobile.
Ouais.
Il y a les passionnés de longue date, je dirais notre génération qui ont connu la course automobile avec Gilles Villeneuve, ou en tout cas qui l'ont apprécié davantage avec Gilles Villeneuve. Il y a toutes les personnes qui sont venues après l'époque, je dirais Jacques Villeneuve, qui ont trippé course automobile à
Qui est
l'époque des
moi?
succès de Jacques, il y a une vingtaine, 25 ans maintenant, il faut dire 25 ans.
Ouais.
Et puis, il y a cette nouvelle clientèle-là, et on l'a vu notamment lors du dernier Grand Prix l'année dernière, où la F1 n'a pas roulé au Canada, c'est vrai, mais ils ont quand même roulé aux États-Unis, à Austin, et on voyait beaucoup une clientèle de jeunes passionnés. Et ça, c'est une clientèle qui est vraiment est arrivée, s'intéresser à la Formule 1, spécialement en Amérique du Nord, avec Drive to Survive, parce que c'est vrai que Drive to Survive, c'est parfois un peu trop scénarisé. Donc, quand on connaît bien la Formule 1, la course automobile, parfois on se dit, ah, ils poussent un petit peu, là, tu sais, ils exagèrent un peu. Mais pour le grand public, c'est clairement quelque chose qui est une porte d'entrée très, très intéressante. C'est quelque chose que Bernie Ecclestone, à l'époque où il voulait avoir sa télé numérique, n'a pas réussi à faire parce que lui détestait les médias sociaux, justement. Mais justement, Liberty Media, en ouvrant la porte à Netflix, à Drive to Survive avec cette série-là, je pense que vraiment, ils ont réussi leur coup.
Effectivement. Philippe, on va se reparler quelques fois durant la saison. Je te souhaite une bonne année de F1. Au plaisir de se parler un autre tantôt.
Un gros merci à toi.
Voilà notre collaborateur de course automobile, Philippe Brassard.